VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du mercredi 19 juillet 2017. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia et Anne Albertson. Pour commencer les titres.
La Cour pénale internationale doit se prononcer aujourd'hui sur la demande de libération de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo.
En République centrafricaine, mise en garde contre les violences entre factions armées et les risques de crise humanitaire à grande échelle.
En République démocratique du Congo, procès en appel aujourd'hui à Lubumbashi de l'opposant en exil Moïse Katumbi sur l'affaire de spoliation d'immeubles.
Le président Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine ont eu à Hambourg, lors du récent sommet du G20, une seconde réunion non divulguée.
Les États-Unis ont pris de nouvelles sanctions contre l'Iran pour son programme de missiles balistiques.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant. Le journal.
La Cour pénale internationale doit rendre aujourd'hui sa décision sur la demande de Laurent Gbagbo d'être libéré pour le reste de son procès. L'ancien président ivoirien est jugé pour crimes contre l'humanité lors des violences post-électorales ayant déchiré la Côte d'Ivoire en 2010-2011. Premier ex-chef d'État remis à la CPI, M. Gbagbo avait fait appel en mars de la décision de la Cour de le maintenir en détention à La Haye pendant toute la durée de son procès. M. Gbagbo, âgé aujourd'hui de 72 ans, et Charles Blé Goudé, ancien chef du mouvement des jeunes patriotes fidèles à Laurent Gbagbo, sont accusés de 4 chefs de crimes contre l'humanité, meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains. Les 2 hommes ont plaidé non coupables.
Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, Assoa Adou, ancien ministre de Laurent Gbagbo, a été condamné mardi à 4 ans de prison pour trouble à l'ordre public par la cour d'assises d'Abidjan. C'est une décision politique, a réagi maître Ange Rodrigue Dadier, un des avocats de la défense, dénonçant la requalification des chefs d'accusation et promettant de se pourvoir en cassation. Monsieur Adou, incarcéré depuis 2 ans, a été jugé en même temps que 7 autres personnes présentées comme des complices des faits.
En Guinée, le chanteur de reggae Eli Kamano, arrêté lundi pour avoir participé à une manifestation non autorisée contre le président Alpha Condé à Conakry, a été relâché mardi en fin de journée. Après plusieurs heures d'audition, lundi et mardi, par la police judiciaire sur ses accointances avec l'opposition, ses activités et les sources de financement de son mouvement, appelé La Jeunesse s'organise pour son avenir, il a été déféré devant le parquet. Le chanteur a été inculpé avec ses co-prévenus d'attroupement interdit sur la voie publique et de troubles à l'ordre public par le substitut du procureur de la République.
En République centrafricaine, les violences entre factions armées pourraient replonger le pays dans une crise humanitaire à grande échelle. C'est ce qu'ont déclaré hier l'Agence américaine pour le développement international et d'autres organismes. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Une montée subite des combats entre milices dans plusieurs points chauds a déraciné plus de 100 000 personnes depuis avril. C'est la pire crise de déplacement après l'avènement du conflit en 2014, préviennent des groupes d'aide, notamment le Conseil norvégien pour les réfugiés. Plus d'un million de personnes en sont déplacées et au moins 2,2 millions ont besoin d'aide en RCA, selon l'Office des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Le plan d'intervention humanitaire dont le pays a bénéficié en 2017 a mobilisé 118 millions de dollars sur les 497 millions nécessaires, selon le service du suivi financier de l'ONU. 13 des 14 groupes armés centrafricains ainsi que des représentants du gouvernement ont signé un accord de paix le mois dernier, mais dès le lendemain, 100 personnes ont été tuées à Bria lors des affrontements entre factions. Depuis lors, les combats se poursuivent et se sont intensifiés dans les villes comme Bangassou et Zemio. Les enfants sont de plus en plus ciblés par les violences, victimes de meurtres, d'enlèvements, de viols et de recrutements dans les groupes armés.
En République démocratique du Congo, l'opposant en exil Moïse Katumbi est invité à comparaître en appel ce mercredi à Lubumbashi dans le procès sur une affaire de spoliation d'immeubles pour laquelle il était condamné à 3 ans de prison. La défense s'y rendra pour veiller à la régularité de la saisine du tribunal et pour tenter d'exiger et d'obtenir un procès équitable, a déclaré à l'AFP son avocat, maître Jean-Joseph Mukendi. Le point avec Eddie Isango.
Maître Jean-Joseph Mukendi, l'avocat de Moïse Katumbi, a déclaré à VOA Afrique que toutes les preuves démontrant que son client a été injustement condamné et pour des raisons politiques seront à nouveau présentées lors de ses procès en appel. Ces preuves sont à la disposition de tout le monde. Plus d'une personne ont témoigné. Le propriétaire de l'immeuble est connu. Il s'en réclame. C'est le frère de Katumbi qui a un certificat d'enregistrement valide de plus de 30 ans, donc inattaquable, a indiqué l'avocat. Moïse Katumbi a été condamné pour spoliation du meuble par contumace à 3 ans de prison en mai 2016, dans un procès dont les plaignants étaient un sujet grec. Une condamnation prononcée alors que M. Moïse Katumbi venait de quitter le pays pour des raisons de soins de santé à l'étranger sur autorisation du procureur général de la République. L'opposant était sous enquête, accusé de recrutement des mercenaires après avoir déclaré sa candidature pour la présidentielle. Récemment, le procureur de la République a révoqué l'autorisation accordée à Katumbi pour des soins à l'étranger au motif qu'il aurait violé la consigne de garder les silences qui lui avait été notifiée.
Par ailleurs, un groupe d'experts de l'ONU, dont 2 membres ont été tués alors qu'ils enquêtaient sur des fosses communes en RDC, n'a pas exclu l'implication de membres de la sécurité d'État dans le crime. D'après l'AFP, qui cite le rapport remis au Conseil de sécurité en juin, les premiers éléments ne permettent pas encore au groupe de désigner les responsables des meurtres. Le rapport affirme toutefois que le double meurtre était bien un guet-apens prémédité.
En Afrique du Sud, un député de l'ANC et l'ancien ministre des Finances, Pravin Gordhan, se sont joints aux nombreux détracteurs du président Jacob Zuma qui réclame sa démission. Le point avec Jean-Roger Bion.
Le député Makosi Kosa a choisi le jour de l'anniversaire de Nelson Mandela pour dénoncer Zuma le traitant d'insulte à la mémoire du père fondateur de la démocratie sud-africaine. L'ancien ministre des Finances, Pravin Gordhan, s'est joint lui aussi aux nombreuses autres personnalités du Congrès national africain, l'ANC, pour réclamer le départ du chef de l'État. Selon lui, le président Zuma devrait s'effacer de la scène politique et laisser quelqu'un d'autre diriger le pays afin de répondre aux aspirations de Mandela pour l'Afrique du Sud. L'ANC au pouvoir depuis la fin officielle de l'apartheid en 1994 est confronté à une érosion historique de son électorat, fatigué des scandales dans lesquels est empêtré le président Zuma, de même qu'une économie en berne. Il y a un an, le parti a perdu le contrôle de plusieurs grandes villes, dont Johannesburg et Pretoria. Plusieurs partis d'opposition ont déposé au Parlement une nouvelle motion de défiance contre le président Zuma. Elle sera débattue le 8 août, mais ne devrait pas passer, l'ANC disposant d'une confortable majorité qui a bloqué les précédentes tentatives.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Donald Trump et Vladimir Poutine ont eu à Hambourg, lors du récent sommet du G20, une seconde réunion dont l'existence n'a été divulguée qu'hier soir. Elle a été confirmée par la Maison-Blanche, qui a plutôt parlé de brèves conversations à la fin du dîner officiel. Messieurs Trump et Poutine avaient eu leur premier face-à-face le 7 juillet en Allemagne, une rencontre de plus de 2 heures, abondamment commentée par la presse et qui incluait leurs ministres respectifs des Affaires étrangères. Il est maintenant connu que les deux présidents ont eu une seconde discussion, qui a duré 1 heure, lors d'un dîner pour les chefs d'État du G20 et leurs conjoints ou conjointes. On ignore les sujets discutés. Le président Trump a réagi immédiatement sur Twitter pour attaquer la presse et dire que cette fausse histoire de dîner secret avec Poutine est démente.
Le président Trump a d'autre part nommé mardi John Huntsman, un diplomate et ancien gouverneur très expérimenté, au poste d'ambassadeur des États-Unis en Russie. La nomination de M. Huntsman doit encore être confirmée par le Sénat.
Les États-Unis ont pris hier de nouvelles sanctions contre l'Iran pour son programme de missiles balistiques. En revanche, la Maison-Blanche continue de respecter l'accord international de 2015 sur le programme nucléaire de Téhéran. Éric Manirakiza.
Il s'agit de sanctions juridiques et financières. Le département d'État et le Trésor ont ciblé 18 personnes et entités iraniennes liées aux missiles balistiques et au corps des gardiens de la révolution, armée d'élite de la puissance chiite. Les États-Unis estiment que les activités de l'Iran au Moyen-Orient sapent la stabilité, la sécurité et la prospérité de la région. C'est notamment l'appui au Hezbollah, au président syrien Bachar al-Assad et aux rebelles houthis au Yémen. En représailles, Le Parlement iranien a entamé une procédure pour voter une loi de renforcement du programme balistique en vue, dit-il, de lutter contre les actions terroristes et l'aventurisme de Washington. En revanche, le président Donald Trump s'est pour l'instant bien gardé de sortir de l'accord historique en matière de non-prolifération nucléaire signé avec Téhéran. Le secrétaire d'État Rex Tillerson a certifié auprès du Congrès que l'Iran respectait les termes de cet accord que le candidat Trump avait promis de déchirer durant sa campagne.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Jacques Aristide.
Les travaux de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou, long de 1260 km, débuteront le 15 septembre. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, de même que la Sitarail, filiale du groupe Bolloré qui gère la ligne, ont signé un accord hier à Ouagadougou. Le projet coûtera au total 262 milliards de francs CFA. Cette ligne représente le principal débouché maritime via la Côte d'Ivoire. Pour le Burkina Faso, c'est également le moyen de transport le moins coûteux pour les industriels burkinabés et ivoiriens. La Banque centrale de la RD Congo annonce dans un décret des sanctions contre les compagnies minières qui ne rapatrient pas 40% des recettes de leurs exportations. Le décret prévoit une amende d'1% des sommes non rapatriées et jusqu'à 200 millions de francs congolais de pénalité si les opérateurs miniers ne dévoilent pas leurs comptes bancaires à l'étranger. Premier producteur de cuivre en Afrique, le Congo voit actuellement la chute de son franc. Lancement hier à Madagascar d'une filière d'approvisionnement de vanille auprès de 3000 petits producteurs destinés à lutter contre la spéculation tout en assurant un revenu correct aux paysans. Il s'agit d'une initiative du fonds d'investissement Livelihoods montée par des multinationales de l'agroalimentaire. Elles ont investi environ 2,3 millions de dollars dans le projet qui prendra la forme d'une coopérative agricole.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
De grandes décisions attendues au symposium de la CAF qui prend fin aujourd'hui à Rabat.
Tout à fait, Idrissa, décaler la CAN de janvier pour la jouer entre juin et août, maintenir son organisation tous les deux ans, augmenter le nombre d'équipes qualifiées pour la phase finale jusqu'à 32, ce sont là, entre autres, les points saillants de ce symposium. La nouvelle équipe dirigeante de la CAF parle de révolution. Pour en savoir davantage, nous avons joint Sita Sangaré, président de la Fédération Burkinabé de football et membre de la commission CAN à la CAF.
Beaucoup de joueurs ont bravé leur club pour venir, et après leur CAN, on vit leur carrière stopper net. Tout simplement parce que la CAN se déroule généralement vers janvier, février, en plein championnat européen.
Président, je suis le passage des équipes de 16 à 32.
Nous avons 54 fédérations en Afrique, donc c'est un peu justice que d'accroître un peu le nombre, mais accroître dans des proportions raisonnables.
On maintient la CAN pour chaque deux ans?
Oui, parce que la Coupe d'Afrique, c'est un événement important pour le continent. C'est bon pour nos États, je peux peut-être rester calé sur la périodicité des deux.
Sita Sangaré, joint à Rabat.
En RDC, le titre de champion se joue aujourd'hui entre le TP Mazembe et l'AS Vita Club.
Effectivement, Mazembe et V Club pour le titre, ça se passe au stade de Kamalondo à Lubumbashi donc. Le vainqueur de ce match sera sacré champion de la saison 2016-2017. En cas de match nul, l'AS Vita Club enlèvera le titre pour avoir dominé Mazembe au match aller.
L'équipe nationale de Djibouti dissoute.
Oui, c'est la volonté de la Fédération Djiboutienne de football qui a justifié sa décision par la série sans fin de mauvais résultats des Requins dans les compétitions internationales, notamment la déroute samedi dernier à domicile face à l'Éthiopie, 5-1. Cette dissolution s'étend également à l'ensemble des membres du staff technique. L'équipe nationale djiboutienne, 185e au classement FIFA actuel, est du même coup forfait pour le match retour du tour préliminaire du CHAN 2018 qu'elle devait jouer ce samedi contre l'Éthiopie.
un ancien ministre des Sports suspendu au Burkina.
Effectivement, le colonel Yacouba Ouédraogo, président de Salitas, club de deuxième division qualifié pour la montée en D1, la saison à venir, est suspendu de toute activité sportive pour la saison 2017-2018. Il doit en outre payer une amende de 1 million de francs CFA. Ainsi en a décidé le conseil de discipline de la Fédération burkinabé de football. Il lui est reproché d'avoir tenté de corrompre Ali Kéré, un arbitre avec la somme de 20 000 francs CFA. Le colonel Yacouba Ouédraogo aurait récidivé pour avoir déjà tenté de corrompre un trio arbitral.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, les agences des Nations Unies et 6 autres organisations ont lancé hier à Brazzaville un appel pour réunir des fonds estimés à plus de 23 millions de dollars afin de venir en aide à des milliers de déplacés du pool. De Brazzaville, des détails avec Nguela Ngoussou.
L'aide recherchée par les agences des Nations Unies va directement toucher 138 000 personnes aujourd'hui sans nourriture ni médicaments. Ces sinistrés du pool connaissent une grave crise humanitaire à telle enseigne que 17% des enfants de moins de 5 ans sont frappés par la malnutrition aiguë. Docteur Alex Nzabana Waibika, membre de la fondation Ibina, qui s'occupe de ces quelques indigents qui se sont installés à Brazzaville.
Ils sont très malnutris, ils sont malades. C'est difficile à décrire parce que il y a déjà eu certaines personnes qui sont décédées parce que non seulement il n'y a pas l'assistance en nourriture, mais non plus pour les soins médicaux. Nous avons pu donner de la nourriture, des sacs de riz, du sucre, du lait, de ce qu'on a pu donner, mais à moindre échelle parce que, comme tout un chacun le sait au Congo, nous n'avons pas de subvention de l'État. Ils sont partis dans les familles, à Madibou, à Ngangalingolo, et à Makelekele, à Mfilou. On a essayé d'apporter ce que nous pouvions apporter. Et donc, il y a des gens qui sont déjà morts.
Les agences des Nations Unies à Brazzaville comptent d'abord sur l'apport du gouvernement avant d'espérer collecter des fonds auprès des bailleurs internationaux. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies à Brazzaville, Anthony Kwaku Oemeng, garde espoir.
Je dois le dire, l'eau pour de partenaires connus. Premièrement, il s'agit du gouvernement. C'est une question des Congolais. Le gouvernement est attentif. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Le 138 000 identifiés dans l'appel, c'est des personnes à qui nous avons accès. Mais oui, il y a certaines zones d'insécurité où nous n'avons pas jusqu'à présent eu accès. Et nous sommes toujours en discussion avec le gouvernement.
Les organisations de la société civile continuent d'appeler à l'ouverture d'accès dans le pool afin qu'elle évalue elle-même cette situation humanitaire. Franck Nzila, du mouvement citoyen Le Ras-le-Bol.
Au mouvement Ras-le-Bol, nous avons mené une campagne pour mettre, je dirais, en exergue cette situation difficile. Si le gouvernement congolais dit qu'ils n'ont plus les moyens, entre guillemets, pour assister les populations du pool, on demande au gouvernement congolais d'arrêter d'acheter des armes, d'arrêter d'entretenir la guerre pour que cet argent qui existe, soit, je dirais, orienté vers des choses positives et bonnes pour le Congo.
Depuis avril 2016, les forces armées pourchassent le pasteur Ntumi et ses hommes, les ninjas, dans le pool. Les populations prises dans l'étau se réfugient dans les forêts où elles sont sans assistance. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
Insécurité accrue en République démocratique du Congo, report des élections et rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi 6 mois après sa mort. Telles sont quelques-unes des questions abordées ici dans nos studios à Washington par Eddie Isango dans une interview avec le secrétaire général du parti d'opposition, l'UDPS, Jean-Marc Kaboun.
Vous parlez bien du Kasaï, qui est un phénomène nouveau. Vous parlez de l'insécurité en plein centre-ville de Kinshasa, où il y a des tueries, et au Bas-Congo. Cela nous pousse à croire que c'est lié justement aux questions politiques brûlantes dès lors. Mais c'est pas un hasard.
Où il y a des nouvelles rébellions. Hein.
Bien sûr. C'est ce qui est vrai que cela est directement lié aux problèmes politiques que nous avons aujourd'hui, notamment à l'alternance. Et nous avons M. Joseph Kabila qui aujourd'hui est au pouvoir, qui gère par défi, qui avait déjà fini son second et dernier mandat l'année passée, donc le 19 décembre de l'année passée. Il ne veut pas quitter le pouvoir et dans ses stratagèmes, il institue un état d'urgence des faits en étant lui-même auteur de ces insécurités et pour justifier par exemple la non-tenue des élections, pour justifier un état d'urgence qu'il envisage d'instituer au Congo afin de se maintenir au pouvoir. C'est l'œuvre du régime qui cherche à intimider le peuple congolais, à mettre la communauté internationale devant un fait accompli et bénéficier d'une prolongation.
Le président de la Commission électorale nationale indépendante a déclaré qu'il était pratiquement impossible de tenir les élections en décembre 2017.
Je pense que ça l'engage que lui-même, ce sont des propos qu'il assumera. Il n'y a pas eu élection en 2016. Et pour ça, nos compatriotes sont morts. Le régime de Kabila a tué des centaines de Congolais sont morts pour revendiquer la convocation du corps électoral le 19 septembre 2016. Et pour ça, il a fallu qu'on aille à un dialogue politique. Et Nanga, avant cette date historique, racontait qu'il avait besoin d'un consensus politique.
Etienne Tshisekedi est décédé le 1er février 2017. Il s'est fait aujourd'hui plus de 5 mois que son corps traîne encore à Bruxelles.
Tout récemment, vous êtes au courant que tout était mis en œuvre. Nous avons eu un compromis qui devait être sanctionné par un simple communiqué. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est maintenant près de 2 mois, ce communiqué n'a jamais été signé par le pouvoir. Nous l'avons signé, nous et la famille biologique, mais jusque-là, rien n'est fait. C'est la peur bleue que Kabila a aujourd'hui. Nous avons entendu cela de leur propre bouche. Ils ont peur, ils se disent qu'une révolution peut se déclencher à l'arrivée de ce camp.
De passage à Washington, Jean-Marc Kaboun, secrétaire général de l'UDPS.
Dans Washington Forum ce jeudi, on fait l'état des lieux de la justice sur le continent africain. Génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, torture, disparitions forcées. Face aux crimes les plus graves, la CPI est-elle la seule instance internationale compétente? Des petits délits et aux questions administratives, la justice fonctionne-t-elle dans votre pays? Dans les régions les plus reculées, quelle place pour la justice traditionnelle? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
Au Togo, la région des savanes, avec pour chef-lieu Dapan, située au nord de Lomé, figure parmi les plus touchées par le VIH-Sida dans le pays. Pour venir en aide aux enfants locaux porteurs du VIH ou ceux dont les parents sont séropositifs, traités à tort d'enfants sorciers, une ONG les accueille dans son centre, la Maison Sainte-Monique. Reportage de notre correspondante Kay Lawson.
Voici la devanture de la Maison Sainte-Monique de l'ONG Vivre dans l'Espérance. Ce pensionnat accueille des enfants infectés et affectés par le VIH-Sida. Aucune enseigne lumineuse pour signaler le centre, à part ce petit écriteau à peine visible. Nous sommes accueillis par Rita Kagba, la responsable de la maison familiale Sainte-Monique.
Les enfants que vous voyez dans cette maison, c'est des enfants qui ont perdu les parents très tôt et où la fille ou le garçon de 9 ou 10 ans devait prendre la charge de ses petits frères. Donc depuis les années 2012, on a essayé de les mettre ensemble pour former une nouvelle famille. D'où pour d'autres, c'est la seule famille qui les reste actuellement où je vous parle. Donc actuellement ici, moi j'accueille 97 enfants, dont 16 qui n'ont pas encore 4 ans.
Créée il y a une vingtaine d'années par la sœur Marie Stella Couac, l'ONG Vivre dans l'Espérance veut redonner de l'espoir à des enfants particulièrement vulnérables et abandonnés.
En Afrique, il y a toute la communauté sur laquelle on peut compter quand le père ou la mère n'est pas là. Malheureusement, le VIH a cassé un peu cette unité au niveau des communautés familiales.
Il y avait des enfants, à partir du moment où les parents étaient décédés, surtout les enfants contaminés, on ne pouvait pas les garder. On disait, s'ils ne peuvent pas vivre, à quoi ça sert de dépenser pour les soigner? Il faut les laisser mourir, il faut les chasser. Et moi, j'allais contre ce vent. Je me disais, un enfant malade a aussi autant d'importance qu'un enfant non malade. Et si on espère un tout petit peu, c'est pour ça que l'association s'appelle Vivre dans l'espérance, si on espère un tout petit peu qu'il y a des médicaments qui arrivent, ces enfants vont vivre. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse que mes premiers enfants infectés sont déjà à l'université.
Parmi les tout premiers pensionnaires de cette maison, on cite le nom de Richalatou Alassani, aujourd'hui étudiante en gestion des ressources humaines à l'université de Cara.
Ce centre-là, c'est ma famille. Du coup, depuis 3 ans, je suis là avec les autres enfants, donc j'ai grandi ici. C'est ma famille, quoi. Non, sans ce centre-là, je ne pense pas que je serais en vie, parce que quand j'étais très petite, je tombais souvent malade. Et c'est notre maman, la sœur Stella, qui m'a toujours soignée à la pédiatrie et tout ça. Si je n'avais pas rencontré ce centre ou si la sœur ne m'avait pas accueillie, je ne pense pas qu'aujourd'hui j'allais vivre.
Tout comme Richalatou, Jean Yoabol a été recueilli par le centre à l'âge de 11 ans suite au décès de ses parents. Sa licence en gestion de projet en poche, il est revenu se mettre au service de sa maison.
Je suis revenu pour donner un peu de mon temps à l'association Vivre de l'Espérance puisque ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette chance-là. Et si j'ai eu la chance d'être pris en charge par une structure pareille, je donne aussi de mon temps pour pouvoir aider mes jeunes frères. Depuis que je suis arrivé, j'avais constaté qu'il y avait un petit manque d'organisation. Donc j'essaie de restructurer la maison. J'essaie de donner aussi de mon temps pour donner des cours de rattrapage à niveau à certains qui demandent service.
Dépisté séropositif il y a quelques mois, Mary Yedongu est venue chercher du soutien pour ses enfants auprès de Vivre dans l'Espérance.
J'étais souffrante et j'ai suivi le test de dépistage et ça s'avérait positif. Jusqu'ici, je n'ai plus de force pour travailler et on m'a dirigé vers le centre et ils ont accepté de prendre en charge mes enfants. J'attends à ce que le centre puisse accompagner mes enfants, même si je meurs aujourd'hui, que mes enfants puissent trouver un lendemain meilleur.
L'ONG dispose de 2 maisons familiales où vivent 150 enfants, mais prend également en charge des centaines d'enfants dans des familles d'accueil. Kailosson, Dapaon, VOA Afrique.
Les États-Unis, cette semaine, à l'heure du « Made in America », une initiative lancée par l'administration Trump pour souligner ses efforts qui visent à encourager les entreprises américaines à rapatrier leurs opérations implantées à l'étranger. Le point avec Morgan Guiriec.
La Maison Blanche transformée en foire américaine cette semaine. Des bateaux construits dans le Maine, au rhum produit à Hawaï, tous les 50 États de la Fédération américaine y sont représentés. Même Marine One, l'hélicoptère présidentiel a été réquisitionné comme porte-étendard de l'industrie aéronautique de l'État du Connecticut. Le coup d'envoi officiel de cette mobilisation industrielle a été donné par le président Donald Trump lorsqu'il a signé un décret proclamant la semaine du Made in America. Le plus dur a été fait, avait-il affirmé, assurant les industriels que toutes les barrières réglementaires ont été supprimées.
Pendant des décennies, Washington a permis à d'autres pays de détruire des millions d'emplois américains par des pratiques commerciales injustes. Attendez de découvrir ce que nous vous réservons. Vous allez être tellement heureux.
Pour les démocrates, la semaine du Made in America du président Trump est le summum de l'hypocrisie. Il devrait tenter de donner l'exemple, disent ses détracteurs, le sénateur démocrate Chuck Schumer de l'État de New York.
Si vous allez prêcher, commencez par balayer devant votre porte. Les chemises et les cravates de Trump, où sont-elles fabriquées? En Chine. Et les meubles de Trump? En Turquie.
Ivanka Trump, la fille du président américain, fait elle aussi fabriquer à l'étranger les vêtements et autres articles portant son nom. Un fait relevé par plusieurs journalistes lors du point de presse de la Maison Blanche lundi. Rien d'extraordinaire ici, leur a répondu le porte-parole de la Maison Blanche, Sean Spicer.
Certains articles ne présentent pas de possibilité d'économie d'échelle et ne sont pas en grande demande dans ce pays. Mais si la demande est là, alors quelqu'un pourrait bien construire une usine ici.
Les choses ne sont pas si simples que cela dans un monde interconnecté, font remarquer les spécialistes du commerce mondial, comme Daniel Eikenson de l'Institut Cato, un cercle de réflexion de Washington.
Le plancher de l'usine traverse désormais les murs et s'étend au-delà des frontières et des océans, si bien qu'un produit vendu par un détaillant américain peut bien contenir du matériel et de la valeur ajoutée provenant de 5, 6, 10 pays.
Loin de se laisser démonter par de tels arguments, les conseillers politiques de la Maison-Blanche poursuivent la mise en œuvre de leur protectionnisme. Ils nagent ainsi à contre-courant de la politique suivie par les précédentes administrations, tant démocrate que républicaine, à savoir la promotion du commerce international et des accords commerciaux. Qu'en pensent les Américains ? Selon un sondage d'opinion Reuters Ipsos, dont les résultats ont été publiés mardi, ils se disent prêts à acheter des biens produits aux États-Unis, mais sont peu enthousiastes à l'idée de payer plus cher pour le « Made in America ».
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seroudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.